up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Vous pouvez nous suivre évidemment en vidéo sur le site europe1.fr. Il y aura le journal des médias, le journal de la culture évidemment, des conseils de sortie cinéma. Et oui, demain c'est mercredi et l'année Beethoven qui commence, pas le chien, le compositeur. Aujourd'hui, c'est la reprise des questions au gouvernement. Une chaîne d'un genre révolutionnaire les décrypte à destination des jeunes. Elle s'appelle Acropolis avec 2 C comme les gens qui sont accros. Chaîne qu'on trouve sur Twitch, la plateforme de jeux vidéo. Pourquoi, comment, son fondateur sera avec nous. 34e jour de grève dans les transports avec cette question qui angoisse les salles de rédaction. Au bout d'un mois de grève, comment les éditorialistes parviennent-ils à se renouveler chaque jour? Réponse avec des stars de l'exercice, Christophe Barbier et Bruno Jeudy. Enfin, notre invité culture, Vincent Delerme, chanteur, auteur, compositeur, qui réalise son premier film. Film qui ne ressemble à aucun autre et même le titre ne ressemble à aucun autre. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Oui, c'est le titre. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous.
Je ne sais pas si c'est lui, si c'est bien lui.
Si c'est moi.
Bonjour Pierre Desereau de Pure Média.
Bonjour.
On commence avec vous par les audiences télé évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
Alors hier soir, il y avait une grosse battle de séries françaises entre TF1 et France 2. And the winner is France 2, la 2 qui procédait au lancement de la saison 2 des Rivières Pourpres, sa série policière créée par Jean-Christophe Granger, qui était votre invité hier et portée par Olivier Marchal. Alors on peut dire que vous avez porté chance à Jean-Christophe Granger, puisque gros succès pour les Rivières Pourpres, 4 500 000 téléspectateurs.
Ah oui,
en moyenne.
Presque 5 millions.
Oui, voilà, et quasiment 20% du public, très bon score et un score en hausse par rapport au lancement de la saison 1. La deuxième place est pour TF1, la une qui prend la médaille d'argent avec le lancement de la saison 4 de Sam, sa série française avec Natacha Lindinger et Fred Testo. Les aventures de la décapante prof de français ont amusé 3 700 000 Français, 17% du public. Alors la troisième place, elle est pour France 3, logique. France 3, troisième donc, avec Appaloosa, le western américain en rediffusion avec Viggo Mortensen et Renée Zellweger. Appaloosa qui a rassemblé 2 300 000 cinéphiles, un peu plus de 10% de part d'audience. Alors en quatrième place, il y avait aussi un gros lancement sur M6, la 6 qui proposait le tout premier épisode de la saison 4 du docu-réalité Marié au premier regard. Alors vous savez, Marié au premier regard, c'est cette émission dans laquelle des couples de célibataires qui ne se connaissent pas sont formés sur la base de tests de compatibilité et à la fin, ils peuvent se marier. Et donc ce premier
déjà
numéro...
que ça marche pas toujours quand on se connaît, alors, quand on se connais pas,
c'est risqué.
Ça a marché alors ou pas?
Alors oui, ça a marché. Oui, 2 20 000 personnes, 9,7% du public, on peut dire peut mieux faire.
D'accord.
Et alors du côté des autres chaînes,
il y a du million?
Alors il n'y a pas de million, mais il y a un joli succès à signaler pour TFX avec Appel d'urgence consacré aux gendarmes de la région Nord, un magazine présenté par une certaine Hélène Manarino.
Ah, ouais.
Qui a rassemblé hier 865 000 téléspectateurs, 3,7% du public, un très bon score, bravo à Hélène.
Voilà, elle est presque au million, Hélène.
Presque. Ça lui
fait plaisir. Elle sera là tout à l'heure pour le portrait inattendu de Vincent Delerme. Merci beaucoup, Pierre. À demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le journal des médias avec vous, Lise Pressac. Bonjour.
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous.
Journal qui démarre par Tex. Tex qui a perdu son procès en appel contre la société de production des Amours.
Oui, l'animateur avait été écarté de la présentation du jeu télévisé fin 2017 après 17 ans d'antenne. France 2 avait peu apprécié sa blague sur les violences conjugales faites dans l'émission C'est que de la télé sur C8. Tex avait alors réclamé 1,2 million d'euros à Sony Pictures Télévision, la société de production des Amours, pour rupture abusive de contrat. Le conseil des prud'hommes lui avait donné tort en juillet 2018. L'animateur avait tout de même obtenu 45 000 euros de dommages et intérêts pour la requalification de ses 144 CDD en CDI et 10 000 euros aussi de frais de justice. Tex avait fait appel de cette décision, mais la Cour d'appel de Paris vient donc de confirmer le jugement rendu par les prud'hommes.
Des nouvelles de TF1 maintenant, oui. La chaîne va adapter les sketchs de Muriel Robin en fiction, oui. Et il y a du casting.
Et oui, info du Parisien, le tournage a commencé hier et le casting et de choix. Muriel Robin s'est entourée de ses amis comédiens, chanteurs ou animateurs pour incarner les personnages de 10 de ses sketchs. sketch culte. Vanessa Paradis jouera sa fille dans Le Mariage et Jean Reno sera son mari. Charlotte Rampling jouera la nurse anglaise dans La Veste. Et pour le cultissime sketch de l'addition, vous savez, cette division impossible à faire en fin de repas.
Ils sont tous radins.
Au restaurant, il y aura Estelle Lefébure, Sylvie Testu, Vincent Dodienne ou encore Kenji Girac. Autre séquence annoncée, celle du salon de coiffure avec Françoise Fabian, Lynn Renaud, Mimi Mathy, Anouchka Delon, Alexandra Lamy ou encore Mathilde Seigné. Wow. Au casting également, l'héroïne de Capitaine Marlowe, Corinne Maziero. Cette soirée spéciale sera donc bientôt diffusée sur TF1, qui fait à chaque fois de très bons scores d'audience avec Muriel Robin. En 2018, le téléfilm dans lequel elle incarnait Jacqueline Sauvage avait rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs. Et en octobre dernier, 7 millions de personnes l'avaient regardé jouer une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'était aux côtés d'Empokora dans le téléfilm Le Premier Oublié.
Vous nous parlez maintenant d'un documentaire diffusé ce soir dans le magazine Infrarouge sur France 2, doc intitulé Lassana Bathily, héros malgré lui.
Oui, nous sommes le 9 janvier 2015. Hamedi Coulibaly prend en otage les clients et le personnel du magasin Hyper Cacher dans le 20e arrondissement de Paris. Lassana Bathily est manutentionnaire là-bas. Il réussit à s'enfuir et à sauver des otages en collaborant avec la police. Le documentaire dresse le portrait de ce Malien arrivé en France quelques mois avant ses 16 ans et qui est devenu en 2015 l'un de ses héros nationaux.
Ça, c'est ma terre natale, mon village Samba Dramané. Je suis né ici, grandi ici.
Je suis venu en France 15 ans et demi.
Pour rejoindre mon père, pour aller travailler. Voilà, les villages de Coulibaly et mon village, il n'y a que 22 km. Voilà, c'est pas très loin, quoi. Bon, entre Coulibaly et moi, la seule différence, c'est que Coulibaly, il est né en France. Voilà, moi, je suis né au Mali. On parle les mêmes langues. Voilà, il n'y a que ça. Sauf qu'il y a eu éducation française. Moi, j'ai eu éducation africaine. Voilà, c'est cette chose qui est différente entre moi et Coulibaly.
En demi-heure, ma vie a changé. Oui, bien sûr.
Il est devenu un héros connu dans le monde entier et pourtant Lassana Bathily refuse ce terme. Il considère qu'il a juste fait un acte citoyen. Une modestie mise à l'épreuve des caméras et de l'emballement médiatique qui a suivi l'attentat de l'Hyper Cacher. À l'époque, 300 journalistes l'appellent chaque jour, même Barack Obama parle de lui. C'est cette folie médiatique et ses conséquences qui sont aussi abordées dans le documentaire. Écoutez Pierre-Olivier François, son co-réalisateur, au micro de Louise Bernard.
J'ai rencontré Lassana Bathily peu après les attentats, dans un autre contexte, et j'avais été très marqué à la fois par sa présence, et on s'était posé la question avec Pierre Bourgeois avec qui j'ai fait ce film, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme après ce qui lui est arrivé, du jour au lendemain, suite à un attentat, de devenir héros mondial avec le monde qui a tellement besoin de héros à de tels moments. Pourquoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Alors oui, les attentats, ils étaient importants, parce que sans l'attentat, Lassana n'aurait pas été connue. Mais pour nous, c'était très important de ne pas être mangé par l'attentat. L'attentat était le moment où la vie de Lassana bascule.
Les deux réalisateurs ont suivi Lassana Bathily pendant plus de 2 ans, de début 2017 à mai 2019. Ils ont interrogé ses proches, ceux qui ont connu le jeune homme d'avant 2015, son ancien directeur de foyer, son parrain républicain, son professeur de français, à l'époque où Lassana Bathily préparait un CAP carrelage. Pierre Bourgeois et Pierre-Olivier François ont voulu savoir comment il s'était construit en l'accompagnant au Mali dans son village natal pour rencontrer sa famille.
Le fait qu'on ait pu aller avec lui dans son village en Afrique, à mon avis, était très, très fort parce qu'on a compris à quel point il avait été structuré par son éducation. Il a une famille, des parents qui lui ont donné des valeurs fortes. Il le dit, sa religion l'a aidé à faire les bons choix quand il fallait. Mais c'est d'abord son éducation, sa famille, ses choix personnels. Et de voir cet autre Lassana, pas Lassana le français, qui avait eu les médailles de la République, mais de voir l'autre, le membre de la famille africaine, celui qui va en France pour aider son village aussi, même si lui maintenant se sent définitivement français autant que malien. Je crois que c'était très important pour comprendre cette bascule.
Naturalisé le 20 janvier 2015, 11 jours après son acte héroïque, Lassana Bathily travaille aujourd'hui au service des sports de la mairie de Paris. Et en le voyant voter pour la première fois à la présidentielle de 2017, on comprend qu'il est non seulement un héros, mais aussi un symbole de réussite. Infrarouge est présenté par Marie Drucker et c'est ce soir à 23h10 sur France 2.
Et puis un héros d'un autre genre, oui. Et cette fois c'est de la fiction. Vous nous parlez pour finir du retour de Magnum.
Alors, je vais en décevoir certains, hein, mais ne vous attendez pas à voir poindre de nouveau la célèbre moustache de Tom Selleck des années 80.
Oui.
Le Magnum version 2020 s'appelle Jay Hernandez. Vous l'avez peut-être vu en 2001 dans le film Crazy Beautiful aux côtés de Kirsten Dunst. Avec Will Smith dans Suicide Squad.
Mais on s'en fout, il a qu'à se laisser pousser la moustache.
Oui, c'est pas Magnum.
Ça l'empêche
pas.
Je
sais. Vous l'avez peut-être vu encore dans Bad Moms la même année en 2016. En tout cas, dans Magnum, il incarne Thomas Magnum, donc, qui à son retour d'Afghanistan se reconvertit en détective privé à Hawaï.
White Knight à Cambridge,
bonsoir. Je te reçois 5 sur 5.
Vous allez rire.
Ah mais, on est grillés, ils savent qu'on est là.
Tu peux accéder au point d'exfiltration ?
Négatif !
Bon, il va falloir qu'on improvise. Quelle est ta position ? Donne-moi un point de repère.
Je vois des arbres.
Sans déconner. Des arbres, je vois que ça. J'ai besoin d'autre chose.
Je vais vous demander de fermer les yeux.
Dès les premières images de la série, on est plongé dans une course-poursuite, vous l'aurez compris. Trois épisodes de ce remake de Magnum seront diffusés ce soir à partir de 21h05 sur TF1 et ce sera comme ça chaque mardi. Et pour les nostalgiques, hein, autour de cette table,
des
nostalgiques de Tom Selleck, voilà, deux soirées exceptionnelles sont prévues demain, mercredi 8 et mercredi 15 à partir de 20h50 sur TV Braise avec donc l'original.
Merci beaucoup Lise Pressac, c'est l'original également. À demain.
À demain.
À suivre dans l'infomédia du jour, Acropolis, un site, une chaîne YouTube où Jean Massier, qui est notre invité, commente les débats de l'Assemblée nationale comme une partie de jeu vidéo ou un match de foot. Et on va en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans l'infomédia du jour, Philippe, on va parler politique.
C'est l'un des programmes politiques, vous l'avez dit, les plus pointus et parfois, il faut le dire, les plus indigestes de la télévision, la séance des questions au gouvernement en direct depuis l'Assemblée nationale. Questions qui reprennent aujourd'hui pour une session jusqu'en juin. Autrefois, c'était diffusé sur France 3. On les trouve désormais sur LCP, la chaîne parlementaire, mais également depuis 2015, et très très peu de gens le savent, mais ils sont de plus en plus nombreux, sur la plateforme Twitch, le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo grâce à la chaîne Acropolis, polis comme la cité grecque et accro comme quelqu'un d'accro avec deux C. Aux commandes, non pas un journaliste politique cravaté, mais un animateur de 32 ans dont l'ambition est de désacraliser la politique et de la rendre accessible à un jeune public. C'est notre info média du jour. Et pour rendre plus rock'n'roll ces joutes orales entre députés et membres de gouvernement, il a décidé de les commenter comme on commenterait une partie de jeux vidéo. Paris gagnant, sa chaîne compte aujourd'hui près de 30 000 abonnés sur Twitch et 26 000 sur YouTube. Bonjour Jean Massier.
Bonjour Philippe Bondel.
Quel a été, s'il y a eu un déclic, le déclic pour fonder votre chaîne Acropolis ?
Eh ben, c'était il y a 5 ans, jour pour jour.
Ouais.
Voilà. C'était Charlie Hebdo. Ça m'a bouleversé à titre personnel, ça m'a bouleversé à titre citoyen. Et à l'époque, je bossais en politique, donc j'étais un encravaté comme les autres.
Ouais.
Et c'est à partir de ce mouvement-là, de ce moment-là, la manifestation du 11 janvier, que j'ai eu envie de tout plaquer pour lancer un projet qui a du sens, un projet qui réconcilie un peu les jeunes avec la vie publique.
Vous bossiez avec qui en politique ?
Je travaillais au cabinet de Marisol Touraine à l'époque, la ministre de la Santé.
D'accord. Et pourquoi vous êtes intéressé aux questions au gouvernement, qui est un programme, comme je l'ai dit, un peu fastidieux, voire
mais précisément, parce que c'est un ovni médiatique, ce truc-là. Ça fait 30 ans que c'est diffusé à la télé, personne ne comprend rien à ce bordel.
Ouais.
Il faut essayer d'imaginer un sport dont personne ne comprendrait ni les règles, ni les acteurs.
Le
ni...
curling.
Oui, non, mais voilà, mais qui ne serait pas expliqué. Et qui serait diffusé toutes les semaines à la télé. Bah, c'est le même principe. On a un truc qui est diffusé à la télé depuis des années, des décennies même, dont personne ne comprend rien. Et c'est censé nous aider à mieux comprendre la politique, à faire de la transparence, etc. Pour moi, c'est contre-productif.
Mm-hmm.
Ça donne une très mauvaise image de la vie politique, alors que c'est une séance importante dans la vie politique.
Mais vous-même, qui êtes un expert, vous l'avez dit, en politique, vous compreniez ? Ou est-ce que vous-même, parfois, vous trouviez ça obtus, abscons ?
Non, justement, je comprenais. Mais je comprenais parce que j'avais la formation, parce que je travaillais dans ce monde-là. Les codes, je les avais. Les clés de lecture du truc, je les avais.
Ouais.
Et je me suis dit, mais si on ne les donne pas aux gens, il ne faut pas s'étonner que, notamment les jeunes, soient de plus en plus en défiance vis-à-vis du politique. Si le seul truc qu'on leur diffuse à la télévision, qui est censé les aider à mieux comprendre, ils comprennent même pas ça. Donc c'est ça, je me suis dit très rapidement, mais il faut expliquer ce truc-là. Il faut expliquer comment ça marche et donc le commenter en direct.
Alors, vous commentez en direct, vous donnez les codes, sauf que vous commentez comme si c'était une partie de jeu vidéo. D'où ça vous est venu ?
Ça m'est venu du fait que à titre personnel, je suis un mordu de jeux vidéo. Ça fait des années que je joue et que je regarde. C'est quelque chose qui est en croissance depuis des années. Le fait de regarder des parties de jeux vidéo commentées sur Internet en direct. Et j'ai saisi au bon cette innovation en disant qu'il y avait une innovation médiatique et éditoriale majeure. Le fait de pouvoir interagir en direct avec le public, répondre à ses questions directement, c'est une manière de permettre au public de vivre en direct l'événement comme s'il y était.
Vous faites référence évidemment à la plateforme Twitch. Pour qui ne l'a pas vu, racontez à quoi ça ressemble.
Twitch, c'est une plateforme qui diffuse tout un tas de chaînes en direct. On crée crée une chaîne sur Twitch aussi facilement qu'on crée une chaîne sur YouTube. Sauf qu'à la différence de YouTube, on est en direct avec son public. On diffuse directement ce qu'on est en train de faire, une partie de jeu vidéo ou quelque chose qu'on est en train de regarder. Et surtout, on interagit. Twitch est une plateforme fondamentalement interactive. On a un chat qui défile avec son public qui, du coup, participe à l'émission, à sa construction éditoriale. Et on n'a pas de spectateurs, on a davantage des acteurs de l'émission.
Donc, pour expliquer, par exemple, il y a un match de foot, n'importe quoi, sur FIFA 2020. Ouais. Il y a deux joueurs qui jouent, donc il y a l'écran. Ouais. À la suite de quoi, il y a un commentateur qui commente le match. Ouais. Bah, dis donc, le Real va s'en prendre une dans 10 minutes.
Exactement.
Et les mecs peuvent commenter, les viewers peuvent regarder en disant il ferait mieux de passer par les ailes plutôt que par le centre.
Exactement.
Et tout ça s'affiche sur l'écran.
Et tout ça s'affiche sur l'écran.
Donc, il y a trois informations en même temps.
Absolument.
Le match, le commentateur et les commentaires faits par les gens qui regardent. Et c'est ce que vous avez fait pour la politique.
C'est ce que j'ai fait pour la politique, parce que ça a particulièrement du sens en politique d'interagir avec les gens. En tout cas, quand on veut une démocratie dans laquelle les citoyens participent, sont impliqués, ça a du sens de leur donner la parole et de leur permettre de commenter eux-mêmes. Donc ça permet de le faire remonter des questions, mais pas seulement, des opinions aussi. Moi, je demande toujours au public, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début, vous avez eu des problèmes avec Twitch.
Oui. Quand j'ai lancé le projet en 2015, c'est un projet que j'ai voulu lancer sur Twitch, que j'ai pensé pour Twitch. Et Twitch, à l'époque, m'a banni. J'ai été banni pendant 2 ans.
Super.
À l'époque, la plateforme venait d'être achetée par Amazon et ils avaient une politique et une charte extrêmement stricte. Et à l'époque, seuls les contenus jeux vidéo étaient autorisés. Et donc, j'étais trop en avance sur la plateforme, puisque du coup, j'ai été obligé de quitter la plateforme et d'aller sur YouTube. Et voilà, 2 ans plus tard, j'ai pu réintégrer la plateforme.
Une fois qu'ils ont vu ce que vous faisiez sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a aussi du live.
Il y a aussi du live, mais pour le coup, YouTube est vraiment pas fait pour le live. C'est vraiment une fonctionnalité accessoire de la plateforme. Voilà.
Alors, on va entendre un extrait de votre travail. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui se fait interpeller par le président des Républicains. On est à l'Assemblée nationale. Il s'appelle Damien Abad, le président des Républicains. Et depuis votre studio, vous commentez l'échange en temps réel.
Aucun de vos prédécesseurs n'avait annoncé une réforme des retraites à 10 jours des fêtes de Noël, ce qui est particulièrement cynique.
Damien Abad
tout simplement
se fait applaudir par son groupe
gagner la bataille de l'opinion à
sur le fait
prix,
qu'il dénonce l'annonce de la réforme des retraites en décembre.
Et le Noël
en gros, il dit si vous êtes responsable du bordel
enfin,
aujourd'hui.
Votre principale responsabilité, c'est de préparer une réforme injuste et non financée qui va provoquer une baisse généralisée des pensions de retraite. Alors, monsieur le Premier ministre, si l'on en croit vos ministres qui se succèdent à tribune médiatique et vos députés qui rencontrent en catimini l'auditeur de la CFDT, la reculade n'est pas loin. Alors allez-vous reculer et perdre la face en renonçant encore un peu plus à l'équilibre financier du système de retraite.
Merci, monsieur le président.
Pas à dénoncer Damien Abad, c'est le nouveau président du parti,
la parole
du groupe
est à
Les
monsieur
Républicains
le
à l'Assemblée nationale
ministre.
Suite à l'élection de l'ancien président.
Monsieur le président,
à la présidence
mesdames et messieurs
du parti
les députés,
Les Républicains, le chef du gouvernement en personne qui va lui répondre.
Monsieur le
comme
président
c'est la tradition. Abad. Vous parlez encore plus vite que Nelson Montfort.
Ouais.
Petite critique, il y a tous les sons qui superposent, il y a peut-être un problème de mix.
Là, pour le coup, oui, j'ai pas mis de King. C'est vraiment très technique, mais oui, il y a un petit problème de mix.
Parce qu'on entend tout le monde.
On entend tout le monde. C'est une particularité, effectivement, de devoir prendre la parole sur quelqu'un qui parle. C'est un métier très particulier. J'essaye de parler dans les interstices.
Ouais.
C'est ce que je fais typiquement quand il y a les applaudissements et qu'on passe la parole à l'orateur suivant. J'ai une vingtaine de secondes max pour essayer d'en placer un maximum et de permettre aux gens de comprendre l'enjeu.
Vous êtes en total impro ou vous avez les questions à l'avance ou les
deux? Je suis en total impro. Je suis en total impro. J'ai une équipe de bénévoles qui m'aide à préparer l'émission avec les députés qui vont prendre la parole. On connaît leur nom, on ne connaît pas le sujet de leur question à l'avance. On peut s'en douter parfois, mais non, c'est en total impro.
Vous connaissez les éditorialistes politiques, ils ont toujours un avis sur tout. Est-ce qu'il vous arrive de dire parfois, alors là, je vois absolument pas où ils vont en venir?
Oui, complètement. Ça m'arrive de dire, alors là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il est en train de raconter. On va essayer de se concentrer 2 minutes parce que je vois pas où il veut en venir. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est donner mon opinion personnelle.
Bien sûr.
Ça n'a aucun intérêt. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour faire de la pédagogie. Mon opinion, je la garde. Elle est pas très intéressante.
Pareil, vous restez avec nous.
Oui.
Parce qu'on a entendu la question au Premier ministre, mais on n'a pas entendu la réponse d'Edouard Philippe commentée par vous.
On parle d'Acropolis ce matin, chaîne YouTube où Jean Massier, qui est notre invité, décrypte l'actualité politique française en commentant les débats de l'Assemblée nationale comme une partie de jeu vidéo et un match de foot. Concept surprenant dont on continue à parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
À la manière des commentateurs de parties de jeux vidéo, Jean Massier commente les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Sa chaîne YouTube s'appelle Acropolis et on en parle ce matin dans l'info média du jour, Philippe.
Oui, on a entendu Damien Abad, qui est le président des Républicains à l'Assemblée nationale, poser une question, apostropher le Premier ministre Édouard Philippe. On va entendre maintenant la réponse d'Édouard Philippe.
Beaucoup de parlementaires veulent rendre hommage aux Françaises et aux Français qui, en dépit des difficultés, vont travailler.
Merci, Jules. Édouard Philippe, donc, qui répond directement à Damien Abad. Ce qui est intéressant, c'est qu'Édouard Philippe, c'est un ancien député du groupe Les Républicains.
Donc,
c'est un peu un règlement de compte entre anciens copains.
Et des faux-semblants. Eh bien, monsieur le président Abad, puisque vous parlez de posture et de faux-semblants, nous voulons réformer le système de retraite français pour créer un système universel de retraite. Cela implique la disparition des régimes spéciaux. Vous êtes contre ? Je ne crois pas. Cela implique...
Évidemment, la réforme des régimes spéciaux, la suppression des régimes spéciaux, les Républicains ont toujours été pour.
Je suis certain que beaucoup de nos concitoyens, et notamment vos électeurs, sont heureux de l'entendre. Nous voulons,
Philippe, nous voulons créer un système
universel de retraite.
Vous riez de bon cœur, parce que vous avez le sous-texte que vous nous donnez, règlement de compte, en tant ancien copain, ce qu'on peut ne pas comprendre lorsqu'on est devant sa télé dans l'après-midi.
De toute façon, le public auquel je m'adresse, qui est un public relativement jeune, il ne fait pas, la plupart du temps, les gens ne font pas la différence entre un député et un ministre, par exemple. Mmh. Pour eux, c'est des vieux en costard qui s'engueulent, on ne sait pas très bien pourquoi, ils parlent japonais déjà, ils utilisent des mots qu'on ne comprend pas, et ils s'engueulent, on ne sait pas quels sont les rôles, pourquoi, enfin voilà. Et donc effectivement, Édouard Philippe, ancien député des Républicains, qui règle ses comptes avec ses anciens collègues, c'est un truc qu'il faut savoir, il faut comprendre ça, il faut avoir la clé pour percuter pourquoi c'est vachement important.
Ouais. Qui est votre public ?
Mon public, il a entre 15 et 35 ans. Il est largué, en fait. Moi, j'essaye de m'adresser autant que possible à un public le plus éloigné possible de la politique. Je ne m'adresse pas aux étudiants en sciences politiques ou aux étudiants en droit. Ils n'ont pas besoin de moi, eux, pour comprendre. Ils ont déjà le corpus qui leur est donné et les clés de compréhension. Je vais chercher un public qui, lui, spontanément, n'aurait jamais cliqué sur une vidéo comme celle-là. C'est pour ça que je vais sur une plateforme de jeux vidéo.
Sauf que vous faites l'inverse, en gros, de ce qui se fait sur Twitch, ontologiquement, si j'ose dire. Twitch, pourquoi ? C'est des gens qui commentent sérieusement un truc qui est fun.
Exactement.
Et vous ?
Et moi, je rends fun un truc qui est très sérieux. Ouais. Effectivement, je retourne complètement le code et j'essaye de saisir justement le caractère extrêmement spontané, sincère et rigolo de Twitch pour qu'on passe aussi un bon moment. Parce que c'est aussi ça, la politique. C'est un truc qui est très sérieux, trop sérieux et qui, du coup, est extrêmement aride.
On peut rire de tout, même de la politique.
Et heureusement qu'on peut rire de la politique. Parfois, il faut en rire. Souvent, il faut en rire, d'ailleurs.
Dans son nouveau roman, qui est sorti il y a quelques jours, Frédéric Becbédé dénonce la dictature du LOL et le ricanement systématique. C'est ce que vous faites ?
Non. Non. Alors, je comprends ce que dit Frédéric Becbédé. C'est un peu, quand j'ai créé Acropolis, je voulais aussi en faire un peu un anti-petit journal. C'est-à-dire que justement, le côté un peu théâtral de la politique qui nous fait nous marrer, il est important. Il faut caricaturer, il faut plaisanter, il faut s'en moquer. Mais la politique mérite parfois un peu mieux que ça. Avoir les sous-titres, c'est aussi donner un peu plus de grain à moudre. Ouais.
Le petit journal qui est devenu Quotidien sur TMC, quelle différence vous faites entre ce que vous faites et ce qu'ils font dans Quotidien sur le traitement de la politique ?
Sur le traitement de la politique, Quotidien est dans son rôle, c'est du divertissement. Ils sont là pour s'en moquer, ils ont bien raison. Ils soulignent les travers du politique. Le problème que ça peut avoir, c'est que ça peut entretenir un espèce de parfois d'anti-parlementarisme. Ce qui n'est pas très grave parce qu'on a aussi besoin de ça, on a besoin de cette liberté de ton. Et la différence avec eux, c'est que tout en rigolant et en permettant aux gens de passer un bon moment, parce que c'est important, j'essaye précisément d'aller un petit peu au-delà de la caricature et du côté théâtral pour dire tout ça c'est rigolo, mais réfléchissez-y, c'est aussi important ce qui est en train de se dire, c'est quand même pas rien. Et la séance de cet après-midi, on va quand même parler de l'Iran, on va quand même parler de la réforme des retraites. Il y a deux, trois sujets en ce moment qui sont un peu importants. Donc
que pensent les politiques de votre travail, de votre chaîne ? Quel retour avez-vous ? Si tant est que vous ayez des retours, si tant est qu'ils vous regardent ?
J'en sais rien et je m'en fous. Voilà, c'est pas compliqué.
Les je m'attendais pas à cette réponse.
Non, mais voilà, ce que pensent les politiques de mon travail, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas créé ce projet pour que eux en pensent du bien ou du mal.
C'était ma question. Vous auriez pu en croiser et qui vous dit, oh, dis donc, je t'ai regardé ou je vous ai regardé ou je vous ai pas regardé.
La plupart du temps, quand je les croise, ils sont interloqués, curieux et plutôt bienveillants. Ils disent, ah, c'est bien, non, c'est sympa. Il faut en parler, c'est important. Ils comprennent assez rapidement que je parle à un public jeune et éloigné et ils sont plutôt clients de ça. Ils pensent, enfin d'ailleurs, ils sont assez conscients du problème. Ils savent très très bien que la défiance des politiques vis-à-vis, enfin notamment au sein des jeunes, est extrêmement importante. Donc tout ce qui va dans le sens d'une réconciliation, eux, ça leur parle.
Combien vous êtes pour faire tout ça ?
On a monté une boîte de production, on est trois à plein temps, on est quatre animateurs d'émissions et on a une trentaine de bénévoles.
Bénévoles, donc ça veut dire que les autres sont payés. C'est quoi le modèle économique ? Comment vous gagnez de l'argent ?
Le modèle économique, c'est grâce à des partenariats qu'on fait sur des diffusions, notamment avec des médias traditionnels ou des institutions. Parce que pour le coup, on travaille avec des institutions de la République qui ont besoin de se faire comprendre. Je pense au Sénat, je pense au Conseil économique, social et environnemental, dont on parle beaucoup en ce moment.
Le CESE.
Le CESE, donc
CESE, pardon.
Que personne ne connaît.
Non,
aussi, voilà.
Mais on ne sait même pas le prononcer.
Voilà, en ce moment, il y a la Convention citoyenne pour le climat, un moment extrêmement important, une innovation politique, il faut l'expliquer. Du coup, on a des partenariats rémunérés par ces institutions-là.
Et aussi avec des chaînes, avec la chaîne parlementaire ou Public Sénat, je ne me souviens plus.
Avec Public Sénat, en l'occurrence.
Vous faites quoi avec eux ?
On fait une émission tous les mercredis qui s'appelle Questions aux sénateurs, où on permet à des jeunes de poser des questions à un sénateur. La plupart du temps, les jeunes n'ont jamais l'occasion de rencontrer un sénateur. Et donc là, on fait une émission hebdomadaire. On a une heure pour poser des questions, les questions questions du chat, pour le coup, qui sont posées à des sénateurs. Et ça, c'est une innovation médiatique majeure, parce que Public Sénat était la première chaîne au monde, une chaîne de télévision, à faire un partenariat avec une chaîne Twitch.
Bah oui, vous rencontrez des hommes politiques, moi, il dit, je les vois jamais, vous les rencontrez, vous rencontrez
oui, mais
moi,
je leur
les
demande
sénateurs.
Pas ce qu'ils en pensent. Je leur demande pas s'ils trouvent ça bien ou pas. Là, pour le coup, c'est plutôt au public que je leur demande qu'est-ce que vous avez pensé du sénateur.
Quelles autres émissions on peut trouver sur Acropolis?
On peut trouver des libres antennes, comme à la radio, pour le coup. Les auditeurs peuvent passer à l'antenne pour parler de politique. On peut trouver des émissions qui parlent de l'actualité des partis politiques. On peut trouver des émissions qui sont très liées à, par exemple, aux élections. On a fait des émissions spéciales pour les présidentielles, pour les européennes.
J'aime bien le titre. Et l'Europe, bordel.
Et l'Europe, bordel. Exactement. C'est notre émission, parce qu'il faut quand même qu'on parle de l'Europe, bordel.
Ouais. Voilà. Et le grand débatton, c'était quoi?
Le grand débatton, c'était une opération assez dingue qu'on a lancée en février dernier, en plein pendant le grand débat national. On a invité 10 ministres à venir se succéder à l'antenne pendant 11 heures d'émission en direct, qui se sont succédés pour échanger et débattre en direct avec des jeunes sur la plateforme Twitch et pour essayer d'expliquer le grand débat national et pour inciter les jeunes à y participer.
Et vous étiez là pour animer la chose.
J'étais là pour animer la chose.
Et vous avez tenu les 11 heures?
J'ai tenu les 11 heures. On se succédait avec d'autres vidéastes et d'autres streamers et du coup on a même eu le Premier ministre qui est venu répondre à nos questions.
Ma dernière question, en temps réel, combien de personnes vous écoutent? Parce que j'imagine que les gens ne tiennent pas 11 heures devant des ministres.
Si, pour le coup,
ils sont combien à tenir 11 heures?
Il y a des gens qui ont passé la journée, là pour le coup on était entre 10 et 12 000 personnes en direct pendant toute la journée. On a fait un demi-million de vues sur l'ensemble de la journée.
Pas mal, ça s'appelle Acropolis, A-C-C-R-O-P-O-L-I-S, c'est visible sur la plateforme Twitch, également sur YouTube, et vous êtes le fondateur d'Acropolis, Jean Massier. Merci d'avoir été avec nous sur Europe en direct.
Plus d'un mois de grève, comment gère-t-on la crise dans les médias? Comment les éditorialistes parviennent à se renouveler chaque jour dans leur décryptage et leur analyse? On en parle dans un instant avec nos invités Bruno Jeudy et Christophe Barbier sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on va continuer à parler politique, actualité avec cette grève qui dure depuis plus d'un mois.
Oui, et même cette journée politique promet d'être longue. Aujourd'hui reprennent les négociations entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites. Ce sera tout à l'heure au ministère du Travail autour des questions d'âge pivot, pénibilité, emploi des seniors. Mais c'est pas tout. On l'a vu que mon précédent invité, il y aura en plus une séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale, puis un débat sur les retraites au Sénat et encore une séance de questions à l'Assemblée ce soir à 21h30. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour Philippe. Bonne année à tous.
Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, ancien patron de l'Express, éditorialiste politique, notamment sur BFM TV. À côté de vous, Bruno Jeudy. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Rédacteur chef économie et politique de Paris Match. On vous voit souvent sur les télés et dans les radios. Nous sommes le 7 janvier. C'est le 34e jour de grève dans les transports. Ma question est simple. Au bout d'un mois de grève, comment les éditorialistes que vous êtes parviennent-ils à se renouveler chaque jour ?
Il y a du nouveau chaque jour quand même. Chaque
J'aime
jour
bien le quand même.
Mais oui, bien sûr. L'actualité a plus d'imagination que les éditorialistes. Donc quand on voit débarquer des notions comme l'âge pivot, le minimum contributif, quand on a des petites phrases qui sortent de ci, de là, n'oublions pas l'épisode du changement de ministre. On est passé de Deloitte à Pietraszewski, c'était pas anodin quand même. Le fait qu'aujourd'hui on soit dans le bureau où ça s'est tenu en mai 68 pour les fameux accords dits de Grenelle. Enfin, tout cela, ça a l'air d'être détail, mais à chaque fois ça fait symbole, ça fait sens et ça permet de nourrir la réflexion. Et puis il y a un horizon presque idéologique. Va-t-on passer d'un régime universel pensé en 1945 à un autre régime universel pensé en 2020, le premier ayant été rapidement détricoté par les régimes spéciaux?
Mais ça, c'est une très très bonne question. Ma question était, comment faire pour discuter de cette chose-là pendant 34 jours d'affilée, Bruno Jeudy?
Moi, je vais être un petit peu moins optimiste que Christophe. Je trouve que cette année, c'est plus difficile que
l'année dernière. Il n'est pas optimiste, il est enthousiaste.
Oui, non, mais moi aussi, je suis enthousiaste. Mais je trouve que c'était, au fond, Macron, la saison 1, Macron et les Gilets jaunes, c'était plus facile que la saison 2, Macron et le régime des retraites qui va changer peut-être.
Pourquoi ?
Parce que les retraites, c'est un sujet extrêmement compliqué.
Déjà, ce sont des gens dans des bureaux, il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus statique, avec des gens, des syndicalistes qui sont plutôt, j'allais dire, ils font des manifestations très classiques. On est revenu un peu dans l'ancien monde, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus difficile, et c'est une matière économique, et la matière économique à l'antenne tous les jours, c'est pas si facile que ça. Donc déjà, pour l'éditorialiste politique, l'expliquer jour après jour, c'est d'autant plus difficile que cette réforme, ça vous aura pas échappé Philippe, est quand même très
très flou.
Oui.
Et on ne nous a pas retourné les cartes comme ça si facilement. Et même nous qui devons essayer de lire les cartes qui ne sont pas retournées, ce n'était pas si simple. Et je me mets à la place du téléspectateur tous les jours qui essaie de comprendre. Eh ben, on voit bien que dans les sondages, beaucoup de Français n'ont toujours pas compris.
Moi, je ne suis pas un expert comme vous, mais la question que je vous pose en tant qu'expert, c'est est-ce qu'il se passe des choses en coulisses ? Je vais vous dire le sens de ma question. Moi, je suis fan de Formule 1. En ce moment, il ne se passe rien dans le monde de la Formule 1. Mais au contraire, il se passe énormément de choses puisque toutes les écuries sont en train de concevoir, de fabriquer les nouvelles voitures qu'on va voir en mars. Donc c'est le moment où ils travaillent le plus. Est-ce qu'il se passe des choses en coulisses dont vous connaissez l'existence et qui font que ça vous fait, que ça nourrit vos propos ?
Oui, il se passe quand même des choses.
Parce qu'ils sont assis dans des bureaux tous à attendre comme nous en tant que spectateurs?
Non, il y a des changements de position, il y a des petits mouvements. Par exemple, l'attitude de Bruno Le Maire pendant cette affaire des retraites où dès le début, quand l'âge pivot a surgi, il a rappelé que lui avait demandé une mesure d'âge au mois de juin précédent, où il a fait passer des commentaires en coulisses. C'est lui qui, hier, est le plus enthousiaste au micro des médias pour dire oui, la période de financement, la conférence de financement de Berger, c'est une très bonne idée. Donc il fait bouger les lignes pour son intérêt politique, bien sûr, avant qu'Edouard Philippe parle. Donc il y a un jeu en coulisses qui est assez intéressant. Entre les budgétaires et le « ne soyons pas bêtement budgétaires » de Darmanin, il y a eu tout un équilibre comme ça. Ce qui s'est passé dans le bureau du président de la République le dimanche, qui doit être le 8 décembre, qui précède le grand discours du Premier ministre, avec ceux qui basculent du côté de l'âge pivot, qui arrivent à convaincre un président sceptique, ça aussi c'est des coulisses qui sont importantes, qui nourrissent d'anecdotes et qui permettent aussi aux éditorialistes de dire si on prend la bonne ou la mauvaise direction. Parce que notre métier c'est aussi de ça.
Même
c'est aussi ça, dire
même
si c'est bon ou pas bon.
Bruno, jeudi, vous passez votre temps au téléphone à essayer de choper les infos de ce qui se passe en coulisses.
Oui, et c'est pas facile avec ce pouvoir. Et puis en plus là, il y a Christophe a raison, c'est assez irrationnel parce que voir les ministres budgétaires être passés dans le camp des ministres sociaux, c'est assez inattendu.
Oh bah disons, c'est la base de la politique, des gens qui changent d'avis. Bah alors,
oui,
franchement, depuis 30 ans que je m'y intéresse ou 40 ans.
Le ministre du budget, le ministre de l'économie, ils sont plutôt quand même pour serrer les boulons sur le plan budgétaire. Et là, en fait, la surprise, c'est qu'ils sont passés plutôt du côté des sociaux. Et il faut bien reconnaître qu'Edouard Philippe s'est retrouvé un peu seul. Moi, ce qui me passionne depuis le début de cette affaire, c'est que cette réforme, qu'on le veuille ou non, c'est pas du tout une question d'affaires personnelles, c'est que autant il était un second rôle pendant l'affaire des Gilets jaunes, je parle d'Edouard Philippe, autant sur cette affaire des retraites, il est en première ligne. C'est même pour moi la révélation de cette réforme, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que Edouard Philippe tire le chariot de cette réforme, là où Emmanuel Macron appuie sur les freins, sait pas comment faire, fait du en même temps, a soutenu puis désavoué Delevoye. Enfin, il est un peu perdu, Emmanuel Macron, et c'est Édouard Philippe qui tire le chariot de cette réforme.
Oui, et puis je me souviens
réforme.
De sa fameuse déclaration qui n'arrête pas de repasser, où il dit si on commence à faire un régime spécial pour l'un, on va le faire pour l'autre, avec l'effet domino, Philippe, et bim, on y est.
Mais le tout est son contraire, il a dit dans cette affaire de réforme, et je pense que sans Édouard Philippe, cette réforme, on ne l'aurait peut-être jamais vue.
Et alors, vous-même, est-ce que vous êtes trompés, les garçons, messieurs? On va entendre ça tout de suite dans Culture Média.
Ce matin, dans Culture Média, on parle de la façon dont les médias, et notamment les éditorialistes, parviennent à se renouveler pour commenter, expliquer cette grève et les raisons qui l'animent. On continue à en parler avec nos invités Bruno Jeudier, Christophe Barbier, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
34e jour de grève en ce 7 janvier, 34e jour où les éditorialistes politiques et économiques décryptent cette actualité. Et on en parle ce matin, Philippe, avec nos invités, Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match, et Christophe Barbier, éditorialiste sur BFM TV.
Christophe Barbier, on a fait une recension de vos analyses et de vos prophéties. Je suis désolé de le lire à vos contempteurs, vous ne vous êtes quasiment jamais planté. Exemple, mi-décembre, vous avez dit la grève ne se débloquera pas avec les réunions du 19 décembre. Effectivement, le 24, déjà chapeau, vous avez travaillé le jour de Noël. Vous avez fait une analyse dans laquelle vous pronostiquiez que la grève allait continuer encore pendant 15 jours à venir. Vous avez vu juste. Bruno Jeudy, vous avez dit dès le début que ce serait une guerre d'usure. Vous aviez vu juste. Le 13 décembre, Christophe Barbier, vous avez dit que le gouvernement ne lâcherait pas sur l'âge d'équilibre à 64 ans. Pour l'instant, c'est vrai. On va voir si ça tient. Et hier, vous avez répété ce que vous aviez déjà dit depuis le 13 décembre. Vous avez vu qu'on a fait c'était un décompte précis. Vous avez dit « Édouard Philippe ne va pas pouvoir rester longtemps à Matignon ». Vous parlez même d'un nouveau Premier ministre au printemps. Là, vous vous mouillez.
Oui, je me mouille. Parce que d'abord, je considère, et là c'est indifférent avec Bruno, qu'Édouard Philippe a commis quelques maladresses dans cette réforme. Et notamment, imposer l'âge pivot le 11 décembre, c'était une mauvaise lecture psychologique. psychologique et politique de la CFDT et du paysage social. Et puis je considère que dans une 5e République qui est revenue un peu à son fonctionnement habituel, un président distant qui se protège, un Premier ministre au charbon, les rendez-vous électoraux sont importants. Les municipales de 2014 ont été fatales à Jean-Marc Ayrault, usé par un débat fiscal. Eh bien, il se peut que les municipales 2020 soient fatales à Édouard Philippe. Soit parce qu'il aura échoué sur la réforme des retraites, qu'on sera encore dans la pagaille ou qu'elle aura été retirée, soit parce qu'il aura réussi à la faire passer et que quelque part, il pourra partir avec les honneurs, redevenir maire du Havre, penser à une autre carrière et que ça permettra à Macron d'avoir une dernière année et demie de quinquennat avec un autre profil pour aller vers la présidentielle.
Mais quand vous dites ça de manière aussi catégorique, c'est votre sentiment de citoyen ou c'est les infos de journalistes que vous avez qui vous font dire ça?
C'est un mélange des deux.
Il y a des gens qui vous parlent dans les cabinets et qui disent qu'ils risquent de partir.
C'est un mélange des deux. C'est des ministres qui m'ont dit oui, bien sûr, le président changera à coup sûr de Premier ministre après les municipales qui ne seront pas bonnes pour En Marche. Donc il faudra aussi en faire la lecture. Et c'est aussi non seulement ma conviction de citoyen, mais c'est ma réclamation d'éditorialiste. Un éditorialiste, il doit dire il faut faire ça. Alors on n'est pas au pouvoir, mais on doit dire il faut faire ça. Et moi, je pense qu'il faut un nouveau Premier ministre au printemps pour assurer la fin du quinquennat.
Avant de savoir, Bruno Jeudi, si vous avez le même avis que Christophe Barbier, est-ce que vous avez les mêmes infos? Est-ce qu'on vous dit qu'Édouard Philippe ne passera pas le printemps à Matignon?
Bon, tout se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, donc c'est assez difficile à dire. Autour de lui, c'est sûr que la question obsessionnelle de cet exécutif, enfin je parle côté Élysée, c'est la meilleure solution, c'est Nicolas Sarkozy qui garde son Premier ministre 5 ans ou c'est François Hollande qui change de Premier ministre après la débâcle, des municipales. Au fond, Emmanuel Macron tangente avec les deux solutions. Il a pas, à mon avis, il n'a pas pris sa solution. Je ne suis pas sûr que ce soit les municipales qui le déterminent. L'affaire des retraite risque de beaucoup le déterminer parce que dans cette affaire, il a pratiquement perdu tout cet électorat social-démocrate qui a disparu. Et en 2022, ça peut peser lourd au moment du choix des Français, parce qu'il y a quand même vraiment maintenant une partie de l'opinion qui déteste vraiment Emmanuel Macron.
Bon, alors il y a quand même une plantade de Christophe Barbier, c'est au sujet de Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement. Il était pris dans la tourmente, on se souvient, à cause de toutes ces déclarations d'emploi oubliées, d'abord 2, puis 3, puis 4, puis à la fin 13. On vous écoute, Christophe Barbier.
Quitter le gouvernement. Non, il va quitter le gouvernement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'il a été sauvé par Philippe Martinez. Philippe Martinez qui, la semaine dernière, faisait l'éloge de l'homme de dialogue qui était Delevoye et qui, là, a tourné casa, qui réclame sa démission. Or, évidemment, en pleine crise, quand l'adversaire réclame le scalp du ministre, on ne lui donne pas. Donc, paradoxalement, Martinez, qui veut garder Delevoye comme interlocuteur, lui a sauvé la mise. Delevoye partira, mais il partira quand le texte sera terminé, ficelé et transmis au Conseil des ministres. C'est prévu pour le 22 janvier. Jean-Paul Delevoye ne pourra pas porter ce texte devant le Parlement. Ça serait un miracle s'il arrivait jusque-là. Donc il partira à ce moment-là.
Donc Delevoye n'a pas attendu le 22 janvier. Il a explosé en vol. Il a démissionné 6h37 après votre tirade, Christophe Barbier.
Ah oui, là, je me suis planté. Alors bon, oui, mais à coup de pas. Je me suis planté. Soit parce que Delevoye a voulu vraiment me faire une mauvaise blague. Donc on n'imagine pas. Soit parce que je voulais passer sur les antennes d'Europe 1 et dans mon quotidien. Et donc voilà. Non, plus sérieusement, si vous aviez passé l'édito du jeudi précédent, je disais, il ne peut pas tenir. Depuis l'affaire de Rugy, on ne tient pas quand il y a cette affaire-là. Et pendant le week-end, je me suis laissé intoxiquer par toute une montée en ligne gouvernementale sur le thème Sauvons le soldat Delevoye, justement parce que c'est la pagaille. Justement parce que les syndicats demandent sa tête, on va le garder le plus longtemps possible, et si possible jusqu'à la fin sociale et au début politique, au moment du projet de loi. Ce qui s'est passé, c'est que ce front gouvernemental a été brisé par le fait que psychologiquement, Delevoye a craqué. C'est pas Philippe qui le vire, c'est lui qui craque.
Merci beaucoup Christophe Barbier. Juste un mot, vous êtes confiant dans la nouvelle formule de l'Express qui va sortir jeudi prochain?
Mais bien sûr.
Vous l'avez vu?
Non, je l'ai pas encore vu. J'ai vu des petites choses. C'est très élégant, c'est très british, hein, c'est le vie économiste à la française. Vous savez, il n'y a de salut pour les news que par le haut de gamme, et ça va être du très haut de gamme. Ça sera le 16 en kiosque.
Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci Bruno Jeudi, rédac chef économie politique de Match. La ligne de Match, vous la connaissez ou pas encore?
On hésite encore un peu, mais enfin, il y a une bonne enquête sur Laetitia et son père.
Laetitia Hallyday?
Oui.
Quand on est célèbre à ce point-là, il n'y a même plus besoin de donner le nom de famille. Merci Bruno, merci Christophe. Vous êtes tellement célèbre, je ne donne pas vos noms.
Dans un instant, c'est notre heure culture, mais tout de suite, place au rat d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane Le Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup,
rien. Gilles, bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Comment?
Non, je voulais pas vous interrompre.
Moi non plus. Nous sommes le 7 janvier.
On va continuer le petit jeu.
C'est l'anniversaire de la mort de certaines personnalités en ce mardi 7 janvier.
Dites un nom pour voir.
France Gall.
Mais c'est vrai qu'elle a disparu. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup et j'ai envie de pleurer.
Vous êtes en train de plomber complètement l'ambiance. Passons France Gall et je vais vous proposer quelqu'un d'autre. Tesla.
Tesla.
Pourquoi vous moquez de cette personne? Elle est morte, hein?
Mais quoi, c'est les balances?
Les balances Tesla.
Oui, c'est pas la voiture.
Nikola Tesla est mort aujourd'hui, le 7 janvier.
C'est pas des balances?
Ben non.
Ah non, c'est Tétard.
Le Tétard n'est pas une balance.
Non, Tétrix.
Tétrix.
Bah, je ne sais plus.
Vous racontez n'importe quoi, fondamentalement n'importe quoi.
Nikola Tesla, c'est une blague.
C'est pas du tout une blague. Vous connaissez des Nicolas?
Nicolas Chardonnay, qui était un copain quand j'étais petit.
Et qui ne faisait pas de vin?
Non, il était trop petit.
Bah oui, Chardonnay. Nikola Tesla était considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'énergie électrique.
D'accord.
La marque Tesla vient de là. Forcément, on lui doit le courant alternatif.
Ah, donc c'est la fin du 19e.
Vous aimez bien les dates.
1897, moi je dis. Tout le monde est mort autour de lui.
Bien sûr, s'il est né en 1712, tout le monde est mort autour de lui. Il a 700 brevets à son actif.
Ah bah ça, dites donc.
Vous pouvez me refaire ce nom.
Il a dû bien engranger la caisse enregistreuse.
Vous pouvez répéter la phrase que vous venez de dire? Il a dû bien quoi?
Il a dû bien taper la.
Ah, vous le dites moins bien que tout à l'heure.
Il a bien dû taper dans la caisse à chaussures.
Vous avez changé de caisse maintenant, c'est la caisse à chaussures.
Il a bien dû faire tomber les saucisses.
Les chaussures, les saucisses.
Oui, oui. Bah oui.
Vous êtes fou, Gilles. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de devenir complètement dingue.
Mais, pardon?
Comme vous le savez, le courant continue. C'est plutôt Edison qui a travaillé là-dessus.
D'accord, d'accord.
Vous connaissez le groupe de musique?
Edison?
Non, AC/DC.
AC/DC, c'est donc.
AC/DC?
Oui.
Bah, courant alternatif, courant continu.
AC/DC. D'accord, d'accord.
Le groupe Dire Straits. Traduction, c'est pas des gens distraits, hein.
C'est quoi?
Dire Straits?
Oui.
Ah bah, Dire Straits.
Ah oui, c'est pas. Je vais vous apprendre un truc, mais malheureusement, j'ai oublié le titre.
Si vous oubliez tout, on comprend rien. Hein.
C'est pas ça qui est important. C'est pas le fait que je vous dise le titre. C'est. Voilà, bon.
Rabelais est mort aussi.
Rabelais.
Vous aimez Rabelais? Le titre d'un bouquin qu'il a écrit.
Ne me demandez aucun titre, s'il vous plaît.
Ok, Gargantua.
Oui, oui, très bien.
Pantagruel.
Oui, oui, bah, bien sûr. À trop d'informations données, personne n'en prend une.
Très belle phrase qui serait la fin de ce mardi.
Quel beau mardi nous avons eu.
Mais quel beau mercredi nous allons avoir.
Ah,
à demain. Salut Gilles.
C'était l'Air d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Vincent Delerme. Il a réalisé un film documentaire, Je ne sais pas si c'est tout le monde, film OVNI, qui livre des témoignages sans lien d'anonyme comme de personnalité. On va citer Alain Souchon ou Jean Rochefort qui joue ici sa toute dernière scène. Film à voir demain sur Arte. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu, celui de Vincent Delerme, dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, les sorties ciné de la semaine au programme avec Mathieu Charrier, Sol, Underwater et son coup de cœur, L'Adieu, récompensé dans la nuit de dimanche à lundi aux Golden Globes. Et puis on va fêter un anniversaire exceptionnel, les 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Anniversaire qui sera célébré tout au long de l'année avec des concerts, des intégrales et des festivals. Tour d'horizon avec Thierry Geffrotin.